Oui, c'est un sujet qui n'en finit pas de déchaîner les passions. Le motu proprio traditionis custodes, publié le 16 juillet dernier par le pape François. Ce texte met fin à la libéralisation du rite dit de Saint-Pie V, promulgué par le pape Benoît XVI en 2007. Afin de bien comprendre, et en profondeur notamment, la décision du pape François, il nous a paru sage de faire appel à un théologien. Le frère Henri Donneau est dominicain et vient de publier un article de fond à la Nouvelle Revue Théologique. Bonjour frère Henri.
Bonjour Isabelle.
Alors pour bien comprendre de quoi nous parlons, peut-être je vous propose, frère Henri, de rappeler brièvement à nos auditeurs quels sont les différents rites en vigueur dans l'Église catholique et puis la référence à leurs missels respectifs.
Oui, alors dans l'Église catholique, il y a beaucoup de rites en vigueur. D'abord, il y a les rites de l'Église latine et puis les rites des Églises orientales dont on parlera pas. Mais dans l'Église latine, même, il y a plusieurs rites. Il y a encore quelques rites régionaux, le rite ambrosien à Milan. Mais il y a un rite très largement dominant qui est le rite romain, hein, qui s'est imposé progressivement dans toute l'Église latine pendant les derniers siècles, qui est le rite, qu'on appelle le rite romain. Voilà, c'est ce rite-là. Alors, ce rite-là est l'objet régulièrement de... comme tout rite, hein, de révision, de mise à jour, de réforme. Et le pape Pie V au XVIe siècle avait demandé une réforme qui a abouti à ce qu'on appelle le missel de Saint-Pie V, le missel tridentin, qui a été en vigueur jusqu'aux années 1970. Et puis le Concile Vatican II a demandé qu'on toilette ce rite romain, qu'on le ressource, qu'on l'améliore d'une manière à rendre un peu plus de place aux fidèles dans l'Église, à donner une place plus grande à la parole de Dieu. Voilà, enfin, c'est un toilettage normal. C'est ce qu'on appelle la réforme de Paul VI.
C'est notre missel. C'est le missel de Paul VI.
C'est notre missel depuis 1970. Hein, c'est notre missel. Voilà. Et c'est ce missel-là qui est l'objet aujourd'hui de débat parce que voilà, depuis les années 70, un certain nombre de fidèles catholiques ont eu beaucoup de mal à l'accepter, ne se retrouvant pas dans ce qu'ils appelaient la messe de toujours. Bon, la messe de toujours, c'est la même qu'aujourd'hui. Mais bon, il y avait des petits changements, la langue vernaculaire. Bon. De sorte que.
Il y a eu aussi peut-être dans ces années 70 des libéralités qui ont été prises.
Plus que des libéralités. Oui, c'est ça. Il y avait des espèces de désordre très grave, hein, dans les années de ma jeunesse, où on voyait un peu des prêtres faire n'importe quoi, faut dire ce qui est, au nom de la nouveauté, une créativité complètement débridée qui a fait beaucoup de mal. Moi, j'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse de ça. Bon, enfin, nous en sommes aujourd'hui assez loin, parce que grâce à Dieu, Jean-Paul II est arrivé, et puis les mentalités se sont calmées. Aujourd'hui, je crois, il y a de belles études assez dignes, mais il y a toujours une part importante, enfin, une minorité significative de fidèles qui peinent à entrer dans cette liturgie et qui demandent de pouvoir continuer à célébrer le rite de Saint-Pie V. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un peu deux grandes manières de célébrer.
Alors, ces deux grandes manières de célébrer ont été mises en lumière, notamment à l'occasion de deux motu proprio, donc celui du pape Benoît XVI en 2007, qu'on nomme Summorum Pontificum, et puis... donc celui dont nous parlons aujourd'hui, celui du pape François, publié cet été, Traditionis Custodes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous indiquer, frère Henri Donneau, que disent ces deux motu proprio?
Bien. Bon, il faudrait peut-être même remonter à celui de Jean-Paul II en 1988, Ecclesiae Dei, qui commençait à libéraliser l'utilisation. D'ordinaire, il n'y avait qu'un seul rite romain, c'était donc celui de Paul VI, mais devant la demande des fidèles, Jean-Paul II avait déjà ouvert la porte pour autoriser, donner la faculté d'utiliser l'ancien rituel lorsque l'évêque en était d'accord. Bon. Alors, ce qui est arrivé avec Benoît XVI, c'est qu'il a énormément ouvert la porte à la célébration du rite de Saint-Pie V. Il l'a rendu quasiment possible pour tout prêtre à tout moment. Bon, c'est une libéralisation assez vaste. Voilà. Et le pape François, lui, ça c'était en 2007, Benoît XVI, le pape François, en 2021, a un peu refermé la porte. C'est-à-dire qu'il a rendu plus strictes les conditions d'utilisation du missel. Il ne l'a pas interdite. Hein. La messe de Saint-Pie V n'est pas du tout interdite. Simplement, son usage est restreint, en particulier la faculté pour les prêtres. N'importe quel prêtre ne peut pas le faire n'importe quand. Voilà, il y a une volonté, effectivement, de restreindre. Et je verrai pourquoi. La raison principale qu'a donnée le pape François, c'est que le pape Benoît, en se montrant très libéral, avait posé des conditions malgré tout, hein, en disant bien sûr on peut célébrer très largement la messe de Saint-Pie V, mais à la condition expresse, qui était une condition ferme, que l'on reconnaisse la valeur et même la sainteté du missel de Paul VI. C'est-à-dire, on préfère célébrer l'ancien missel, mais on doit reconnaître la valeur, la sainteté, c'est-à-dire la capacité de sanctifier les fidèles du missel de Paul VI, et on doit même le célébrer. On ne doit pas exclure catégoriquement, Benoît XVI, pas d'exclusion absolue de l'usage de ce missel. Or, François constate que, 15 ans après, malheureusement, ces conditions n'ont pas été remplies par tous, et que certains ont pris la liberté sans honorer les demandes, en refusant catégoriquement de célébrer, même lorsque l'évêque le demande à la messe chrismale, il refuse absolument de venir célébrer, ce qui est une marque ostensible de, sinon de mépris, du moins de refus de célébrer. Et c'est un manque de communion, et François dit, ce n'est pas acceptable, ce manque de communion n'est pas acceptable. Voilà pourquoi, bon, comme après des mauvais élèves qui ont fait une petite bêtise, le pape resserre un peu la porte, sans l'interdire encore une fois.
Voilà, parce qu'en fait, ce qui va perdurer, c'est donc la possibilité de célébrer la messe selon le rite de Saint-Pie V, mais ce que le pape François restreint dans son motu proprio, c'est l'exercice des autres sacrements.
Alors ça, c'est arrivé dans un deuxième temps. Le motu proprio au mois d'août ne portait que sur la célébration eucharistique, qui est le principal, qui est le missel pour la messe. Mais depuis est arrivé un autre texte qui étend cette restriction aux autres sacrements, en particulier la confirmation, le baptême, le mariage et les ordinations. Ce texte vient de sortir, il est assez...
Au mois de décembre.
Oui, au mois de décembre, il est assez restrictif. Bon, je ne sais pas encore comment il sera appliqué. Là aussi, je pense que ça dépendra beaucoup aussi des évêques, de la manière de faire, voilà.
Est-ce qu'il y a quand même des points communs entre ces deux motu proprio, ou est-ce qu'ils s'opposent complètement?
Le point commun entre Benoît XVI et François, c'est le fait de travailler à l'unité de l'Église. Benoît XVI avait dit, il y a des fidèles qui ont beaucoup de mal avec le nouveau pour qu'ils ne partent pas dans le schisme, qu'ils n'aillent pas rejoindre Monseigneur Lefebvre. Pour garder l'unité, nous allons les autoriser à l'utiliser. Donc oui, c'est ce souci d'unité. Et François a constaté que, dans le même souci d'unité, que certains, précisément, ne jouent pas le jeu de l'unité, c'est-à-dire qu'ils prennent la faculté de célébrer, mais ils refusent d'admettre la valeur de la messe, et d'une certaine manière, de tout le Concile Vatican II, parce que derrière, l'enjeu, c'est est-ce qu'on se soumet à l'autorité du Concile œcuménique. Et donc François dit, pour défendre l'unité de l'Église, je vais exiger qu'on honore plus les conditions. Et donc les deux papes ont le même objectif, qui est l'unité de l'Église, et c'est fondamental pour les successeurs de Pierre. On ne peut pas accepter que des personnes se marginalisent délibérément par des erreurs de jugement et qui nuisent à la communion, aussi bien Benoît que François.
Et vous parliez au début de notre entretien de ce missel romain. En fait, il y a un unique rite romain et le pape Benoît XVI avait quand même mis en avant un rite extraordinaire et un rite ordinaire. Est-ce que vous pouvez peut-être nous
Depuis le pape Saint-Pie V au XVIe siècle, il n'y avait absolument un seul missel romain. Le Pie V avait été très très sévère pour interdire tous les missels romains, autres que celui qu'il avait publié personnellement, il avait fait travailler des experts, parce qu'avant il y avait beaucoup de missels romains différents avec des petites particularités. Pie V avait dit, ça nuit à l'unité, il y aura un seul missel pour toute l'Église qui célèbre le rite romain. Benoît XVI, pour faciliter cette libéralité, a inventé ce concept doctrinal qui est tout à fait nouveau, qui est de dire il y aura deux formes du rite romain. C'est inouï comme invention, ma foi, c'est un peu assez pertinent. Une forme ordinaire, c'est-à-dire celle qui appartient à l'ordre profond de la vie de l'Église, conciliaire, et puis une forme extraordinaire, c'est-à-dire qui n'est pas tout à fait dans l'ordre, qui n'est pas tout à fait normale, qui n'est pas tout à fait...
Qui est exceptionnelle, peut-être.
Voilà. Mais qui est tout à fait valide, tout à fait légitime, le temps qu'il faudra, le temps que les esprits se comprennent et qu'on entre dans une plus grande unité. Voilà, c'était cette distinction. Et François, de fait, ne réutilise plus cette distinction parce qu'il estimait que, sous le nom d'extraordinaire, certains en avaient fait en fait une deuxième forme ordinaire, qui avait en fait deux formes ordinaires. Et ça, François dit, c'est pas acceptable. Il peut y avoir qu'une forme ordinaire, voilà, qui est l'unique forme du rite romain, mais j'autorise toujours. Hein. Et je suis sûr que le pape François, si on fait preuve de bonne volonté, le pape François acceptera, bien sûr, c'est pas un tyran.
Et alors à ce propos, puisque vous dites que le pape François pourrait accepter, est-ce que ça veut dire que ce motu proprio est définitif, ou est-ce qu'il peut y avoir maintenant un espace de dialogue où les évêques vont discuter avec les communautés traditionnalistes?
Un motu proprio, par définition, en tout cas dans ce qu'il décide, n'est jamais définitif. Hein. Ce qu'un pape a fait, il peut le défaire lui-même. Ce qu'un pape a fait, un autre pape pourra le défaire. L'Église est vivante, elle avance, la législation s'adapte aux circonstances. Donc, c'est évident que le pape a pris cette décision maintenant, vu la situation, ce risque de dérapage. Mais il est évident que la priorité est au dialogue. Il faut absolument dialoguer, et je pense que depuis 2007, nous avons raté l'occasion de le faire. Depuis 2007, en fait, chacun a dit, chacun fait son travail dans son coin, chacun fait sa cuisine, pardonnez-moi l'expression, on s'occupe pas trop des autres, on se tolère, alors qu'il aurait fallu dialoguer, comprendre pourquoi certains fidèles sont si attachés à la forme ancienne, pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à accepter ce que le Concile a demandé pour toute l'Église. D'ailleurs, qui est accepté par 95% des fidèles dans le monde, ne connaissent pas du tout l'histoire du forme extraordinaire, ils n'ont qu'un seul rite en Afrique, en Asie,
c'est
très particulier. Lié à la France et à l'Amérique. Bon. Mais pourquoi ces fidèles ont du mal? Il faut les écouter, il faut essayer de voir comment on peut mieux les entendre. Voilà. Et de leur côté, ils doivent faire effort pour entrer dans l'intelligence profonde de la vie de l'Église, du concile œcuménique. Mettre en doute doctrinalement, ou au moins dans son application, l'autorité d'un concile, c'est extrêmement grave, parce que le concile, c'est l'instance suprême que notre Seigneur a voulu pour gouverner l'Église, assistée par l'Esprit-Saint. Donc, voyez, il faut vraiment prendre le temps, tout catholique a le devoir d'entrer dans l'intelligence profonde d'un concile, et il faut toujours du temps.
Du temps et puis une part d'obéissance justement.
Une part d'obéissance et de dialogue. C'est un exemple typique où il faut à la fois qu'il y ait de l'obéissance. La liturgie, je ne la crée pas, je ne l'invente pas, je ne la décide pas moi-même. Elle m'est donnée par la Sainte Église. Donc obéissance et en même temps dialogue pour s'écouter. Je crois que ce sont les deux maîtres mots aujourd'hui. Le dialogue ne supprime pas l'obéissance et l'obéissance ne dispense pas les autorités et nous autres ensemble fidèles de dialoguer, de s'écouter, de se comprendre et de s'apprécier.
Oui. Dans une tribune parue dans le journal La Croix le 11 janvier dernier, le théologien Grégory Solari considère que ce qui est en jeu dans la résistance des catholiques traditionalistes au motu proprio, c'est moins la fidélité à l'institution ecclésiale que la fidélité à la parole de Dieu. Est-ce que ce désir d'unité exprimé par les papes successifs ne porterait-il pas principalement sur la possibilité d'accéder à une grande partie des textes liturgiques et bibliques surtout ?
Alors ça, c'est un élément de la réforme voulue par Vatican II, et qui est de fait un des grands défauts. Mais beaucoup de prêtres que je connais qui célèbrent dans la forme extraordinaire reconnaissent qu'ils perdent un trésor dans la parole de Dieu. Ils sont tout à fait prêts à l'accepter. D'ailleurs, François a demandé que même quand on célèbre en forme extraordinaire, on fasse les lectures en français pour qu'elles soient comprises. Ceci dit, dans le rite ancien, le répertoire des lectures est d'une pauvreté affligeante. C'est pratiquement toujours dans la semaine, c'est les mêmes évangiles qui reviennent. Donc, il y a très peu, la parole de Dieu occupe une place très faible dans l'ancien rite. Et ça, je crois que les papes insistent beaucoup. Et c'est pour ça que le concile avait insisté. Le peuple de Dieu a besoin et a le droit d'entendre en profondeur la parole de Dieu. Et ça, c'est vrai que c'est un gros effort. Et de ce point de vue-là, les papes ne pourront pas céder sur l'importance que le peuple de Dieu se nourrisse vraiment de la parole. Après, elle a l'aimé.
Donc finalement, un désir d'unité qui est continu pour l'ensemble des papes, un désir aussi de donner accès à la parole de Dieu de façon plus large. Est-ce qu'il y aurait aussi un troisième peut-être désir du pape François ?
En tout cas, je pense que je ne sais pas si c'est le désir du pape François, encore qu'il le dit, il y a aussi, il faut jamais être négligent de ça, prendre un très grand souci dans l'art de bien célébrer, de ne pas jouer avec la liturgie, comme de fait, dans la forme ordinaire, ça a pu se faire pendant certaines années. Voilà, on croyait qu'on pouvait prendre beaucoup de liberté, et le pape François dit, il y a eu des désordres tout à fait fâcheux. Je crois que c'est un devoir pour nous, prêtres de la Sainte Église, et dans qui célébrons dans la forme ordinaire, d'être très attentifs à vraiment célébrer avec le vrai sens qui convient du sacré, de la communion, mais aussi du sacré. Voilà, il y a un équilibre profond à trouver qui, je pense, facilitera le retour de nos frères et sœurs qui peinent un peu à accepter ce rite. Quand une liturgie est très bien célébrée, avec dignité, solennité, mais aussi avec chaleur, communion, avec vie, voilà. Je crois qu'il faut...
Chacun a un pas à faire.
Benoît XVI appelait ça l'enrichissement mutuel. Ouais. La liturgie réformée insiste beaucoup sur la participation du peuple de Dieu. C'est très important, l'aspect de communion. Mais il y a aussi, c'est vrai, le respect des rites, le respect du sens du sacré, que la forme extraordinaire respectait peut-être davantage.
Merci beaucoup, frère Henri Deneau. Malheureusement, le temps nous manque pour prolonger notre discussion, mais merci d'être venu éclairer ce débat.
Merci Isabelle de votre accueil.